Donc c'est bien, j'ai pu corriger. C'est très bien. Donc le message sera mieux cette semaine. Voilà. Ben alors, un petit rappel peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Donc tous les ans, on a un mois, enfin quelques dimanches, sur un personnage de la Bible. Donc sa vie, son époque, sa famille. Le but, c'est d'en tirer des pistes de réflexion, mais surtout des enseignements pour nos vies quotidiennes. Parce que ces gens-là ont vécu pour de vrai, on dirait. Ce n'est pas des contes de fées. Hein. C'est ce que je dis souvent à mes élèves à l'école quand je fais la culture biblique. Je leur dis, attention, la Bible, ce ne sont pas des contes de fées. Ce sont des choses qui sont arrivées dans un lieu précis, à une époque précise, avec des gens en chair et en os. Et souvent, hein, on a tendance à comparer avec les contes de fées. Il était une fois dans un pays lointain, etc. C'est pas du tout ça. Hein. On peut identifier les lieux, on peut identifier l'époque, on peut identifier les rois, et surtout l'époque des rois. On a beaucoup de documents. Bon, c'est sûr que au niveau d'Abraham, on a peu de documents, mais on en a. Donc voilà, c'est pas dans les contes de fées du tout. Et puis, malgré la différence de culture et de circonstances. On croit que, comme le dit la Bible, toutes ces choses, j'aime beaucoup ce verset, toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Toutes ces choses ont été écrites. Alors parfois, hein, vous lisez des trucs un peu « waouh ». Eh bien oui, c'est pour nous servir d'exemple, mais pas forcément toujours à suivre d'ailleurs. Hein. Il y a aussi des exemples à ne pas suivre. Un petit rappel pour le personnage qu'on avait commencé, et il y a maintenant 3 ans, hein, on a commencé le personnage de Samuel. Je pensais que ça irait très vite, en fait, je me suis trompée, comme d'habitude. C'est un personnage très très riche, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc on a continué l'année dernière avec le personnage de Samuel, et imaginez que cette année, on ne l'a pas tout à fait terminé, notre Samuel, parce qu'en fait, il a vécu longtemps. Vous pensez qu'à une époque où la durée de vie moyenne était dans les 45 ans, Samuel a bien dû vivre 80 ou quelque chose comme ça, donc il en est arrivé des choses. Et c'est lui qui a donné l'onction du premier roi d'Israël, Saül. Donc du coup, sa vie est imbriquée avec celle de Saül et on va continuer cette année avec Saül et Samuel, ou Samuel et Saül dans le bon sens. Donc pour un petit rappel chronologique, pour ceux qui comme moi aiment bien situer les choses dans le temps, vous souvenez que en gros, Abraham c'est moins 2000 avant Jésus-Christ, Abraham, Isaac, Jacob, après un des fils de Jacob c'est Joseph qui est parti en Égypte à cause de la famine, vous connaissez l'histoire, et en moins 1300 c'est Moïse qui va les faire sortir d'Égypte alors qu'ils étaient devenus esclaves. Une fois sorti d'Égypte, il a fallu s'installer en Canaan, ça n'a pas été facile, il y a eu ces fameuses 40 années dans le désert. Hein. Et puis, après la mort de Moïse, c'est Josué qui a succédé, on a fait hein, l'histoire de Josué il y a quelques années. Prise de Jéricho et on rentre dans le pays promis. Mais là, les choses deviennent un peu compliquées, parce que ben, le pays promis, c'était bien joli. Coule le lait et le miel, mais le lait et le miel, ça ne vient pas tout seul. Il y a du travail. Pour ce qui est du miel, ça pique en plus. Et puis pour ce qui est du lait, bah les vaches, il faut les élever, les entretenir, les traire, leur donner à manger. Il y a du travail. Et ça me fait penser que parfois, hein, on s'accroche aux promesses de Dieu. Oui, c'est bien, mais en général, on a une part à faire aussi. Dommage, hein, mais c'est comme ça. Et puis les juges, du coup, vont nous expliquer comment ils s'installent. C'est le livre des juges, donc on a avancé. Là, on est à moins 1220, 1050. On a 200 années qui ne sont pas drôles du tout. Moi, franchement, c'est un livre que j'aime pas trop lire dans la Bible. Je me souviens l'avoir lu quand j'étais étudiante. Et à cette époque, on était hyper persécutés au stand biblique. On s'est fait taper dessus et tout. On faisait un stand biblique avec André. Et je vous ai déjà raconté, et c'était la période où justement je lisais le livre des juges. C'était vraiment triste, et j'en ai un très mauvais souvenir, parce que finalement, à chaque fois ça revenait, il n'y avait pas de roi en ce temps-là, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et quand chacun fait ce qui lui semble bon, eh ben c'est pas triste. Et il y a des choses horribles qui arrivent dans le pays, et vraiment c'est décourageant, je trouve, le livre des juges. Voilà. Par contre, il y en a quelques-uns qui vous remontent le moral. On a travaillé, je crois, déjà Déborah, Barak, Gédéon, Samson, c'est pas le plus drôle. Et puis, le dernier juge, c'était Samuel. Donc voilà, on arrive à peu près. Hein. Dernier juge, et c'est celui qui va ouvrir la voie au livre des rois, donc l'installation des rois, Saül, David, puis les autres, qui sont rapportés dans les livres des rois et les deux livres des chroniques. Voilà, j'ai rétabli à peu près la chronologie, sachant que David a été roi à peu près en moins 1010, à peu près. Donc vous voyez là, on a couvert en quelques secondes 1000 ans d'histoire. Ah, la Bible, il faut s'en méfier au niveau chronologique, ça passe vite. Hein voilà. Samuel, c'était un personnage extraordinaire, mais ça a commencé, comme toujours, avec une impossibilité. Je fais un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là dans les prédications précédentes. Environ 1100 avant Jésus-Christ, l'installation en Canaan n'est toujours pas totalement accomplie. Et entre autres ennemis, il y a les Philistins. Et là, on va en parler plus longuement après. Ils cherchent toujours à occuper la côte. Alors, curieusement, le mot philistin a donné le mot palestinien. C'est intéressant. Et ils occupaient la côte, déjà à cette époque-là, particulièrement la bande de Gaza. Mais ce n'était pas la population d'origine. Hein. Parfois, en politique, aux nouvelles, on entend ça. Hein. Ce n'est pas la population d'origine. Ils venaient de Crète, ils venaient même, on pense, du sud de la Turquie et de Grèce. Et c'était des envahisseurs, c'était des gens, on les appelait les gens de la mer. Et ils cherchaient à occuper les côtes pour des raisons évidentes, le commerce, les bateaux, etc. Donc c'était toujours un problème, les Philistins, on va en reparler. La maman de Samuel s'appelait Anne, et vous connaissez tous son histoire. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle se sentait méprisée, etc. Et un jour, elle est allée au temple, comme chaque année, et elle a craqué. Elle a vraiment ouvert son cœur au Seigneur, elle a crié au Seigneur, et à tel point que le prêtre croyait qu'elle était ivre. Mais il a prié pour elle, quand il a su de quoi il s'agissait. Et l'année suivante, Anne a eu Samuel, et elle avait promis de le consacrer à Dieu. Depuis son enfance. C'est ce qu'elle a fait. Et très jeune, Samuel va servir dans le temple, apprendre à écouter Dieu. Et je crois que c'est ce qui est le plus fort chez Samuel, c'est cette capacité à écouter Dieu qu'il a développée dès son plus jeune âge. Et il ne faut pas s'illusionner, les enfants ont une grande capacité à écouter Dieu. Et souvent, on passe au-dessus. Moi, je me souviens de... Je ne sais pas si Florence s'en souvient ou Olivier, mais moi, ça m'avait frappé. On était en vacances... Et le dimanche, qu'on était loin de tout, on avait décidé de faire le culte en famille. Et André avait eu cette idée brillante de dire, ben voilà, les enfants, vous allez chacun vous mettre dans une chambre, le gîte était grand, et vous allez demander à Dieu de vous parler. Et moi, intérieurement, je me suis dit, allez pauvres, comment ça va se passer? Et je disais rien, mais je me dis, oh là 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 là. Et enfin, ils avaient quoi, je sais pas, c'était les petites minaudières, vous aviez quoi, 13 ans? 15 ans, 17, non pas tout à fait, donc un petit peu moins, donc 10 ans, 13 ans, 15 ans à peu près. Je me suis dit, oh là là. Et les 20 minutes se sont passées, nous de notre côté on priait, et je m'attendais au pire du style, bon il nous a rien dit, ou je sais pas quoi. Et bien pas du tout. Ils avaient chacun quelque chose à dire. Tu t'en souviens pas? Non, ça va. Moi je m'en souviens. Mais ça m'a frappée. Ça m'a frappée parce que je me suis rendu compte que finalement, un enfant peut très facilement entendre la voix de Dieu s'il se rend disponible. Et peut-être que nous, c'est peut-être parce qu'on ne se rend pas assez disponible. Enfin, c'est ce que je pense pour moi-même. Hein, si on entendrait peut-être davantage si on se rendait plus disponible. Bref, Samuel avait développé cette capacité à écouter Dieu. Et il est devenu, je passe hein, parce que là, ça serait trop long, il est devenu un prophète reconnu en Israël, et le dernier juge d'Israël. Alors juge, hein, c'était pas le gars avec la perruque là, qui aimait les jugements, c'était un leader. Le mot, je sais pas, c'est dommage qu'on l'ait traduit par juge. D'ailleurs, samedi, Jean-Marc Taubois l'a reprécisé. C'est pas du tout un juge, en fait, c'est quelqu'un. Bien sûr, il réglait les différents graves, mais il était là comme leader, y compris parfois de l'armée, et surtout un leader pour le peuple, c'est-à-dire il traçait la voie pour le peuple. Alors c'est des périodes extrêmement difficiles. Le prophète en place, qui s'appelait Élie, rien à voir avec celui du sacrifice sur la montagne, ses enfants n'étaient pas du tout consacrés à Dieu, faisaient plein de bêtises. Finalement, Dieu parle à Samuel, Dieu parle aussi par un prophète, pour prévenir le prêtre Élie que ses enfants allaient mourir, et c'est ce qui se passe au cours d'une guerre, encore avec les Philistins. Ce qui fait que Samuel va succéder à Élie, au lieu que ce soit ses fils, hein. Et dans une période difficile, l'Arche de l'Alliance, qui était le symbole de la présence de Dieu parmi le peuple, est prise par l'ennemi, et c'est là d'ailleurs qu'Élie est mort, devant cette nouvelle épouvantable, la mort de ses fils et la prise de l'Arche. C'est un épisode vraiment où les malheurs tombent de partout. Et curieusement, le peuple ne bouge pas trop. Pourquoi ? Parce que le peuple s'était habitué au compromis. Vous savez, il y a des gens qui s'habituent aux mauvaises choses. Et nous aussi, parfois. Je me souviens avoir, quand j'étais jeune, je faisais le service de bibliothèque dans un hôpital. Et donc, on passait les bouquins aux malades. Et j'ai rencontré une dame. Et moi, j'en profitais pour témoigner. Et puis, j'ai rencontré une dame qui m'a dit être chrétienne. Et je lui ai dit, mais elle ne pouvait plus marcher. Je lui ai dit, mais le Seigneur peut vous guérir, etc. Et elle me dit, oh non. Je suis trop habituée à être comme ça maintenant. Je ne me vois pas reprendre le ménage, la cuisine, les enfants, etc. Elle avait quoi, 35 ans, 40 ans. Et j'étais sidérée qu'on puisse s'habituer à une situation comme ça. Et dans notre vie physique, ça peut arriver, mais ça peut arriver aussi dans notre vie spirituelle. Et là, c'était le cas. Il s'était habitué à avoir les Philistins dans les pieds. Tellement habitué qu'on faisait les fêtes avec eux. On adorait leur Dieu occasionnellement, ça rendait service. On faisait du commerce avec eux. Et puis, s'ils imposaient certaines contraintes, ce n'était pas trop grave. Autrement dit, on faisait des compromis. Et il y avait une sorte de pacte de non-agression. De temps en temps, elle était rompue. Puis, de temps en temps, ça revenait. Voilà. C'était une situation un peu pourrie, à mon avis. Mais ils s'en étaient accommodés. Mais au bout de 20 ans, ils en ont eu marre. Les compromis, la soumission aux Philistins, c'en était assez, ils ont désiré être libérés. Et le peuple est revenu vers Dieu. Notez que pendant tout ce temps-là, Samuel, il n'a pas dit grand-chose, il attendait. Et je pense que c'est un peu pareil, Dieu souvent, il attend. Il attend qu'on dise, Seigneur, il y en a marre de cette vie pourrie, il y en a marre de ces compromis, il y en a marre de marcher, comme disaient nos vieux pasteurs, un pied sur le trottoir et l'autre dans le ruisseau. Essayez, vous allez voir, c'est très inconfortable. Et pourtant, souvent, on marche comme ça. Et on s'y habitue. Et là, il y a un moment où le peuple a dit, il y en a assez, c'est terminé. On revient vers Dieu. Et alors, ils sont rentrés dans la repentance. Ils sont venus vers Dieu, et dans le jeûne et la prière. Ils ont confessé leurs péchés. Et Samuel a fait un sacrifice. C'était la loi qui le demandait. Mais c'est surtout la relation avec Dieu a été rétablie. Et ce jour-là, curieusement, les Philistins ont décidé d'attaquer. Ça fait penser à ce qui est arrivé il y a quelques années, hein, où les Palestiniens et les Arabes ont attaqué Israël au moment de Pourim, au moment où ils se repentaient. Ce qui est intéressant à voir, c'est l'opposition entre deux passages de la Bible. Là, j'insiste parce que c'était quelque chose qui m'avait vraiment frappé. 20 ans avant, Israël avait été vaincu par les Philistins. En fait, ils avaient manipulé Dieu en amenant l'arche, en disant « l'arche est avec nous, on aura la victoire ». Dans le deuxième cas, les Philistins ont été vaincus. Pas parce qu'ils avaient l'arche, ils n'avaient plus l'arche même. Mais leur cœur était dans la repentance. Vous voyez, c'est une grosse différence. Pourtant, l'arche n'était même plus là. Mais leur cœur était dans la repentance. Dans le premier cas, les Philistins avaient entendu des cris. Et ils avaient peur. Ils se disaient, oh là là, ils ont l'arche avec eux. Ça va être dur, il faut qu'on redouble de courage. Et ils ont eu la victoire. Et le résultat, ça a été Ichabod, la naissance de cet enfant qu'ils avaient appelé Ichabod, la gloire de Dieu est partie du peuple. Alors que cette fois-ci, dans la repentance, les Philistins aussi entendent un rassemblement, ils se disent « Et puis, Dieu va déclencher un orage épouvantable, les roues des chariots s'embourbent, on ne peut plus rien faire, et ce sera Ebenezer, la pierre du secours. Ils vont ériger une grande pierre en souvenir du secours de Dieu dans cette bataille. Ils n'ont même pas eu besoin de combattre. Ils ont juste eu à courir derrière leurs ennemis qui partaient ventre à terre parce qu'ils ne pouvaient plus rien faire. La différence incroyable entre la manipulation de Dieu, on va apporter l'arche puis on aura la bénédiction, et la repentance sincère du cœur, où même sans armes, même sans rien, ils ont eu la victoire devant un peuple bien aguerris. Hein. Les Philistins étaient des guerriers, vraiment profondément guerriers. Alors malheureusement, les fils de Samuel ne vont pas suivre ses traces. Il les a établis juges, c'est un tort d'ailleurs, ils vont rechercher le profit. Et contrairement à Samuel qui a été établi par Dieu et reconnu par Élie et par tout le peuple, ils ne sont pas reconnus. Et ça va être un argument de poids pour le peuple, pour demander un roi. Alors là, vous vous souvenez, on en avait parlé la dernière fois. Samuel, t'es vieux. En gros, c'est ça. Hein. C'est pas très élégant, mais Samuel, t'es vieux, tes fils ne te suivent pas. Puis tu sais, le système de juge, prophète, là, ça marche pas très bien. En gros, c'était ça. Hein. Puis en plus, on est trop différents des autres. Vous vous souvenez, on avait travaillé là-dessus. Hein, je dis souvent à mes élèves, est-ce que vous vous verriez arriver à l'école avec, je sais pas, un jean rouge ou un jean orange? Oh, rien que l'idée, je ne les vois pas lire. Parce que personne n'en porte à l'école, évidemment. Mais si c'était la mode, tout le monde le ferait. Désolée. Mais les enfants à l'école ne le feraient pas. J'avais pas vu. Vous imaginez des cinquièmes, ils seraient terrorisés à l'idée d'être différents des autres. Et c'est bien les gens qui ont le courage d'être différents. Mais souvent, je pose des questions comme ça parce que là, ils comprennent le texte. Être différent. Et être différent par rapport au système politique, ça, c'était pas acceptable. Tous les autres peuples avaient des rois. Et l'avantage, c'est que c'était des rois, ils avaient une cour, ils avaient une armée, des très beaux chevaux, et il y avait tout un apparat. Et nous, alors, on a quoi? Quand les Philistins leur parlaient, ou les Philistins avaient tout un tas de petits rois, chaque ville, hein, Gaza, Akron, etc. Et donc quand on leur parlait, il est où votre roi? Ben, c'est-à-dire que nous, c'est Dieu, notre roi. Ah oui, et votre Dieu, il est où? On le représente comment? Ah, on n'a pas le droit de le représenter. Ah ouais? Et alors, vous avez votre Dieu, on ne le voit pas? Et puis, vous n'avez pas un roi, un palais, une cour? Oh, qu'est-ce qu'ils avaient l'air stupides? Et ils se sentaient mal d'être différents des autres. Ils se sentaient mal. Ils ne voyaient pas que le conseil de Dieu qui était donné par Samuel régulièrement, c'est ça qui leur permettait de vivre. L'amour de Dieu, le pardon au travers des sacrifices, c'est ça qui leur permettait de vivre. Mais la différence, ça pesait lourd. Hein. Et surtout, le plus dur, et ça je crois qu'on va être d'accord avec eux, c'est la dépendance de Dieu. Pour tout. Fallait dépendre de Dieu pour le successeur du juge. Fallait dépendre de Dieu pour la guerre. Ah bah oui. Alors le bon côté, c'est que parfois on n'avait pas besoin de se battre. Mais parfois, il fallait simplement écouter Dieu pour dire, vous allez vous placer là, vous allez faire ça, vous allez envoyer la louange devant. Vous vous souvenez tous les différents moments où ils sont allés demander à Dieu, qu'est-ce qu'on fait en face des ennemis? Hein, parfois, c'est restez là, vous faites votre sacrifice. Moi, je vais m'en occuper, j'envoie un orage. Ou bien parfois, la panique pure. Ou bien, vous vous souvenez avec Gédéon? Vous allez casser des cruches et sortir des flambeaux. Non, mais quelle drôle de façon de faire la guerre. Ça a marché. Ils ont réessayé à la guerre des six jours. Et ça a remarché. Quand Dieu parle. Mais ça demandait à dépendre de Dieu. Et c'est en kikinant. On n'est pas son propre chef. C'est pas facile. Oh, ben, s'il faut que je demande à Dieu pour tout ça, ben, c'est le point sensible de notre... Moi, je pense de notre pays particulièrement. Hein. En France, liberté. Liberté, c'est le premier. Liberté, égalité, fraternité, mais la liberté. Être libre. En fait, la vraie liberté, on l'a quand on fait ce que Dieu veut pour nous. Hein. Si Dieu nous a construits pour quelque chose, c'est mieux de l'écouter, ça marchera mieux. C'est ce que je dis toujours. Si vous mettez de la vaisselle dans un lave-linge, vous pouvez. Mais je ne garantis pas les résultats. Et Dieu nous a conçus pour un certain appel, pour une certaine vie. On peut faire autrement. Mais bon, il y a de la casse. Voilà. Mais bon, cette dépendance de Dieu, ça demande une relation. Et les relations, c'est coûteux. Vous le savez bien, si vous avez des amis, de la famille, bah c'est coûteux les relations. C'est coûteux en temps, en énergie. Hein ? Vous allez dire, oh, ben, c'est un tel est mon meilleur ami. Je ne vais jamais le voir, on ne se téléphone jamais, et on se voit une fois tous les 2 ans. Les gens diront, ah, c'est vraiment ton meilleur ami? L'amitié, l'affection familiale, tout ça, ça demande un investissement. Et avec Dieu, c'est pareil. Ah, la dépendance de Dieu. Et puis, la dépendance de Dieu par rapport au conflit interne entre les tribus. La notion de repentance. Oh, quand on fait des bêtises, il faut demander pardon. Et puis, le rapport à l'idolâtrie. C'est tellement bien les fêtes que font les Philistins de temps en temps. Il y a des orgies, on fait tout ce qu'on veut. Et on adore leurs idoles, bien sûr, à l'occasion. Ah, c'est pas facile de dépendre de Dieu. La volonté d'être pareil, d'avoir un roi comme en ont toutes les autres nations. On avait travaillé là-dessus. Et ils avaient demandé, donne-leur un roi comme ceux des autres nations. Dieu va choisir un roi. Alors attention, quand on lit la Bible, on ne fait pas toujours attention à ça. Et moi, je m'étais posé la question, mais enfin, c'est bizarre. Dieu les laisse faire, c'est lui qui choisit, et puis on voit ce roi, il va foirer. Voilà, ça, c'était mon impression. Mais en fait, dans la réalité, si vous regardez bien, Dieu a choisi Saül sur les critères du peuple. David, il va le choisir, vous vous souvenez l'expression, selon le cœur de Dieu. Et il y a une grosse différence. Alors vous allez me dire, mais oh, dis donc, David, il en a fait des bêtises. Ouais. Mais il a été choisi selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire que Saül a fait des bêtises, mais il a été choisi selon les critères du peuple. Et vous allez voir, il va avoir beaucoup de mal. Il ne va même pas y arriver à se repentir. Alors que David va faire aussi des bêtises. Seulement lui va avoir un cœur comme le Seigneur le demande. Un cœur qui sait se repentir. Alors, la vie chrétienne est beaucoup plus claire quand on regarde ça. Dieu ne nous demande pas d'être parfait au sens grec du terme. Jamais d'erreur, tout va très bien. Avec la grâce du Seigneur, je suis toujours bien. La vérité est quelquefois bien différente. Restons authentiques. Je me souviendrai toujours, je le répète toujours, la fois où j'ai osé dire à un prof mes soucis pour la santé des enfants. Cette dame qui était très dure, très froide, à qui j'avais témoigné, je l'ai vu les larmes qui ont commencé à couler. J'étais honnête. J'ai dit oui, ça me fait du souci. J'ai beau être chrétienne, ça me fait du souci. Soyons vrais. Si on veut que notre témoignage soit crédible, soyons vrais. Oui, c'est difficile en ce moment. Mais je prie, c'est vrai. Il faut être authentique. Et David était quelqu'un d'authentique. Bien sûr, il a péché, mais il s'est repenti. Vous allez voir comment s'est comporté Saül, on va voir ça tout à l'heure. Donc Dieu va choisir Saül sur les critères du peuple. Il va leur faire plaisir. Vous voulez un roi comme les autres nations, il faut bien se rappeler de ce bout-là, comme les autres nations. Eh bien, je vais vous en donner un, selon votre cœur. Et Saül, ben, il présente bien déjà. Ouh, le coup d'œil. Très important, le coup d'œil. Il présente bien, il est grand, plus grand que tous les autres. Ah, pour un roi, ça en jette quand même. Hein. Ça fait mieux. Hein. Bon, je sais bien que Napoléon n'était pas grand, mais quand même. Et puis, il venait d'une famille aisée. Ça fait mieux quand même. Un peu aristocrate, hein. Famille aisée du pays. Samuel va prendre mille et une précautions. Il va énoncer tous les droits du roi qui va régner sur eux. Vous vous souvenez, Charles nous avait fait un magnifique texte là-dessus. Il l'avait modernisé, c'était très bien. Et à la fin, il va donner un avertissement sérieux. Au dernier verset, il dit « Vous deviendrez ses esclaves ». Vous voulez un roi, mais voilà, vous savez comment c'est. Alors c'est excellent ce texte aussi pour ceux qui aiment bien l'histoire, parce que ça nous donne un bon point de vue sur comment étaient les royautés de l'époque. Parfaitement cohérent avec les autres textes qu'on a découverts dans les autres peuples. Donc on est 1000 avant Jésus-Christ, il y a 3000 ans. Donc c'est un document d'histoire extraordinaire qui donnait les droits du roi. Et puis, verset 19, il est écrit « Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. » Pas gêné, les gars. Le peuple refusa. Ils étaient « On veut ça, on n'aura pas autre chose. On veut ça, on veut ça. » Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Tant pis, dirent-ils. Tant pis. Oui, on est d'accord avec tout ce que tu dis. Autrement dit, ils savaient très bien les problèmes et les droits et les devoirs du roi. Tant pis, dirent-ils, il y aura un roi sur nous. » C'est le texte biblique. Et qu'est-ce qu'ils ajoutent ? Il combattra pour nous. Là, je trouve quand même, hein, un homme tout seul en face des Philistins, bien d'accord, il peut diriger l'armée, mais Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait là, juste pas longtemps avant, là ? C'était chapitre 7. Les Philistins ont été vaincus par quoi ? Un orage, pendant qu'eux, ils se repentaient. Il combattra pour nous, le roi. Bon, et Dieu ? L'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de se brancher sur Dieu, hein, on n'a plus besoin, on se confie dans l'homme. Waouh, on est un roi maintenant. Alors là, c'est là qu'on voit la bonté de Dieu. Oh Seigneur, incroyable, la bonté de Dieu. Il leur donne un roi selon leur désir, mais, il va tout faire, il va organiser les circonstances pour que tout se passe au mieux. Ah, ça c'est sympa quand même, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Parce qu'il pourrait dire, ils le veulent, et bien ils l'auront. Hein. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Mais pas du tout. Dieu n'est pas comme ça. Et si parfois le diable vous fait croire que Dieu est comme ça, détrompez-vous. Dieu vous aime, Dieu nous aime, et il veut notre bonheur. Et si on a des problèmes, ce n'est pas qu'il nous attend au coin du bois avec un petit bâton. Non, pas du tout. Il va tout faire pour que ça marche. D'abord, il va organiser les circonstances. Ensuite, il va parler à Samuel pour lui dire où il va retrouver le roi, etc. Il va confirmer le choix à Samuel. C'est bien lui, tu t'es pas trompé, etc. Ensuite, il va donner plein de signes de confirmation. Et puis là, il fait fort, il va déverser son esprit sur Saül. Il va déverser son esprit sur Saül. Donc il va tout faire pour que ça marche. Parce qu'il n'est pas seulement beau, grand et puissant et riche, mais il va mettre l'esprit de Dieu dans son cœur pour qu'il change. À tel point que Saül va même prophétiser et les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il a changé? Est-ce que maintenant Saül ferait partie des prophètes? Ils étaient étonnés. Il va changer le bonhomme. Il va faire tout en son pouvoir pour que Saül fonctionne bien. Moi, je ne sais pas, franchement, humainement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aurais dit, bon, vous le voulez, votre roi, hein, vous l'avez choisi, on l'a choisi sur vos critères, eh bien, dégustez, hein. Mais pas du tout, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est que même si on fait une bêtise, même si, il va quand même essayer de faire tout pour que ça marche. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que il aurait pu leur donner une bonne leçon, là. Pas du tout. Il va tout faire pour que ça marche. Il le change. Et puis, il va même lui donner une promesse à ce roi, disant que Dieu est avec toi. Tout pour que ça marche. Voyez, le but de Dieu, ce n'est pas de détruire votre vie. C'est de la construire. C'est qu'elle fonctionne. Il va réunir toutes les conditions pour que Samuel réussisse et démarre bien dans son appel à être roi. Il ne reste plus à Samuel qu'à faire confiance à Dieu et à... Ouh, un vilain mot, un gros mot, obéir. Horrible, hein? Mais il va faire tout pour que ça marche, même s'il n'est pas tout à fait d'accord. Et alors, je résume un peu ce qu'on a fait la dernière fois, la vie de Saül. Eh bien, au début, Saül obéit, mais alors, formidable. Tu vas là, tu rends là, tu attends 7 jours, tu fais ci, tu fais ça. Il fait tout ce qu'on lui dit. Après, on voit que donc il est obéissant. En plus, on voit qu'il est extrêmement humble. Il y a un moment où on était supposé le chercher pour le mettre à la tête du peuple. Il était caché avec les bagages, il ne se montrait pas. Et ça me fait penser à plus tard, Samuel va lui dire, quand tu étais petit à tes yeux. Il est petit à ses yeux là au début. Hein. Il ne réagit pas à ceux qu'il méprise. Vous vous souvenez l'année dernière, on avait parlé de ça. Les gens après la victoire, ils avaient dit, il faut tuer maintenant tous ces gens qui l'ont méprisé. Lui, il n'est pas du tout dans cet esprit. Il va retourner à son travail agricole, une fois après être nommé roi. Bah pourquoi ? Il va continuer à faire travailler sa ferme. Hein. Il n'avait pas ses grandes idées de grandeur, etc. Et quand le peuple va être attaqué par les Ammonites, il va se laisser envahir par le souffle de Dieu. Il va rentrer dans une sainte colère en disant « On ne va pas laisser les gens avoir un œil crevé, mais vous acceptez pas des choses pareilles quand même ?» Parce que les Ammonites avaient proposé ce deal, vachement génial. On vient, on ne vous fait pas la guerre, on crève un œil à tous les hommes. Et puis, en plus, c'était bien calculé, c'était l'œil qui permettait de viser quand on tire à l'arc. Donc ça doit être le droit, je crois. Et donc ça leur évitait de pouvoir tirer correctement. Et voilà, et comme ça, vous êtes tranquille, vous nous paierez un impôt et vous êtes soumis. Et tu, vous n'allez pas accepter un truc pareil. Et là, il rentre dans une sainte colère, il lève une armée et il établit une alliance locale. Il vient au secours de Jabès, donc la ville qui était menacée, et il va remporter une victoire, mais glorieuse. Il se comporte en vrai chef d'armée, sage, avec une bonne stratégie. Bon, on a vu ça la dernière fois. Et après la victoire, il donne gloire à Dieu. Il ne dit pas, vous avez vu comme je suis bon ? Non, non, il donne gloire à Dieu, il reste dans l'humilité. Il refuse de tuer ses opposants, ces gens qui le méprisaient autrefois. Les gens sont venus le voir en disant, bon, maintenant que hein, tu as montré tes capacités, allez, il faut tuer tous ces gens-là qui se sont foutus de toi au début quand tu as été nommé. Qui ont dit, oh, est-ce que... Non. Et il a dit non. Dieu a donné une victoire, on ne va tuer personne. Vous voyez, un bon esprit. Car le Seigneur a réalisé une victoire en Israël. Chapitre 11. Formidable. C'était Saül, ça. Sa royauté va être confirmée à Gilgal, un lieu où tout le peuple était représenté. Devant le peuple rassemblé, on va confirmer qu'il est bien le roi. Et Samuel, officiellement, va démissionner de son rôle de juge. Pas de prophète, hein, de juge et de leader. Donc, il reste le prophète qui parle de la part de Dieu, fait les sacrifices, enseigne, et il est appelé à rester aux côtés du roi. Donc maintenant, on va avoir une royauté, à partir de là, pour la première fois, avec un roi et un prophète, qui doivent travailler ensemble. Le roi restant le leader politique, militaire, et le prophète étant la voix de Dieu auprès de ce roi. Et c'est le système qui est mis en place. Après ça, Samuel va faire un discours dont je lirai juste quelques extraits. Il fait, c'est au chapitre 12, il fait une sorte de bilan de sa vie et de son rôle. Le peuple reconnaît son intégrité, c'est un modèle de redevabilité d'ailleurs pour le roi, il voit un petit peu ce que ça doit être. C'est un discours d'alliance où il rappelle les promesses de Dieu. Puis après, il fait une sorte de procès au peuple. Là, il n'y va pas de main morte, hein. Je crois que le coup de demander un roi, ça lui était resté en travers de la gorge quand même, hein. Et il fait une sorte de procès. Il place le peuple face à ses responsabilités. Quand vous avez crié, Dieu a répondu. Cette fois, vous avez préféré demander un roi. Donc je résume, hein, le chapitre. Cette fois, vous avez préféré demander un roi plutôt que de crier à Dieu. Hein, d'habitude, vous criez à Dieu, il vous répond. Là, maintenant, vous préférez avoir un roi. Passer au travers d'une alliance humaine. Voici votre roi. Voici les termes de l'alliance. Et on va lire les versets 13 à 16, qui sont très importants. Chapitre 12. Maintenant, voici le roi que vous avez choisi. Celui que vous avez demandé. Vous voyez, il insiste. Hein, le Seigneur a placé un roi à votre tête. Si vous craignez le Seigneur, si vous le servez, si vous l'écoutez et si vous n'êtes pas rebelle aux ordres du Seigneur. Ça fait beaucoup de conditions, hein. Mais il y a beaucoup de promesses dans la Bible qui sont assorties de conditions comme ça, hein. Et souvent, on garde que la deuxième partie. Je vous bénirai. Puis on oublie, si, c'est pas juste. Alors, si vous n'êtes pas rebelle aux ordres du Seigneur, vous suivrez le Seigneur votre Dieu, vous, et le roi qui règne sur vous. Très important à l'époque. Parce qu'il y avait encore des rois qui étaient divinisés à l'époque. Hein. Ça, vous l'avez fait en classe, hein, je pense, 5e, les Égyptiens, 6e, où le roi était, le pharaon était divinisé. Là, on n'a pas du tout ça. Hein. Il n'est pas du tout divinisé. C'est un homme qui doit obéir à Dieu comme les autres hommes. Vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'écoutez pas le Seigneur, si vous êtes rebelle aux ordres du Seigneur, la main du Seigneur sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Maintenant, tenez-vous debout et regardez cette grande chose. Et là, il va y avoir un énorme orage pour confirmer les paroles de Samuel. Oh, là, ils sont morts de peur. Ils ont compris que Samuel ne rigolait pas, que c'était la vérité, qu'ils n'avaient pas forcément fait le bon choix. Et là, ils ont très, très peur. Tout le peuple eut une grande crainte du Seigneur et de Samuel. Tout le peuple dit à Samuel, « Prie le Seigneur, ton Dieu. » Oh, ça fait mal, ça. Ton Dieu, c'est leur Dieu aussi, hein. Pour nous, tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés celui de demander un roi. Ah tiens, ils ont compris. C'est tout à la fin qu'ils ont compris qu'ils avaient eu tort. C'est rigolo, hein. Et Samuel, il est honnête, hein. Il dit au peuple, n'ayez pas peur, vous avez fait tout ce mal. Vous avez fait tout ce mal, vous avez rejeté. Le problème, c'était qu'il ne voulait plus être redevable à Dieu, il voulait un intermédiaire. C'est le cœur de l'homme. Mais ne vous écartez pas du Seigneur, servez le Seigneur de tout votre cœur. Ne vous écartez pas de lui pour vous rallier à du néant, ou des idoles, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce n'est que du néant. Le Seigneur ne délaissera pas son peuple à cause de son grand nom. Et voyez, même, ils viennent de désobéir, ils viennent de faire des grosses bêtises, mais la parole de Dieu est claire, le Seigneur ne délaissera pas son peuple. Et parfois... Il y a quelqu'un qui habite pas très loin de chez moi, dont les parents étaient à l'Assemblée de Dieu de Mende pendant des années, puis ils sont partis en retraite à la montagne. Et il a eu des gros problèmes, et je lui dis, mais pourquoi vous ne priez pas? Ce serait vraiment important de prier là en ce moment. Il y a des menaces de mort assez sérieuses. Et il me dit, oh, je suis trop loin pour ça. Parfois, on croit qu'on est trop loin, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur ne délaissera pas son peuple à cause de nous? Non. À cause de son grand nom, à cause de Jésus. Donc, peu importe les bêtises qu'on a faites, si on a un cœur repentant, le Seigneur ne nous délaissera pas. À cause de son nom, et on peut ajouter à cause du nom de Jésus, hein, du sacrifice de Jésus. Le Seigneur a décidé de faire de vous son peuple. Jamais je ne pécherai contre le Seigneur en cessant de prier pour vous. Je vous enseignerai le chemin qui est bon et droit. Seulement craignez le Seigneur. J'aime bien, on sent qu'il en a marre. Hein. Seulement craignez le Seigneur. Servez-le loyalement de tout votre cœur. Voyez les grandes choses qu'il a faites pour vous. Ça, c'est important. Hein. Mais si vous faites du mal, vous serez emportés, vous et votre roi. Vous et votre roi. Allez hop. Ouh. Samuel va rester patient et compréhensif jusqu'au bout, même quand le peuple reconnaît avoir eu tort de demander un roi. C'est important de savoir que pour nous, grâce au sacrifice de Jésus, au pardon de nos péchés, même, quelles que soient les circonstances, on peut repartir, se relever et repartir d'un bon pied. Je disais à quelqu'un cette semaine dans une visite, Dieu est le Dieu des deuxièmes chances. Il ne reste pas sur nos bêtises en disant, ah ben voilà, t'as tout cassé, c'est fini. Dieu est le Dieu des deuxièmes chances. Au travers de Jésus, on a la possibilité du pardon et de redémarrer à zéro. J'aime énormément ce vieux chant, il est peut-être un peu fantaisiste, je ne sais pas ce qu'il vaut musicalement, moi je ne suis pas musicienne, mais j'aime énormément les paroles, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus comme berger. Très important. Il est rempli de vérité ce chant. On peut repartir à zéro. Ça c'est extraordinaire dans le christianisme. Cette capacité que Dieu a de tout balayer, de tout effacer à cause du sang de Jésus. C'est fantastique. Et de repartir à zéro avec une vie formidable. Avec comme dit le verset, hein, des plans de bonheur et d'espérance. Voilà. Merci. Alors on arrive au chapitre 13. Je pense que je vais en lire un petit peu. Saül avait, alors il y a un petit blanc, parce qu'en fait les manuscrits se contredisent, on ne sait pas combien de temps, quel âge lorsqu'il devint roi. Il régna 2 ans sur Israël. Là aussi, on ne sait pas trop comment ils font le compte. Donc les chiffres, c'est vraiment un problème. Saül se choisit 3000 hommes d'Israël. Vous voyez, il se conduit déjà en chef d'armée. 2000 étaient avec lui, à Michmas, et dans la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan. Jonathan, c'est son fils, à Gibéa de Benjamin, donc c'est plus au sud. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il considérait que ce n'était plus la guerre. Le peuple était infesté de Philistins, qui n'avaient qu'une idée, affermir leur pouvoir. Pourquoi il renvoie les gens chez eux? Jonathan, son fils, ah, les jeunes, moi, ils ont du punch. Hein. Jonathan bâtit la garnison des Philistins qui était à Gibéa et les Philistins la prirent. Ah, mais Jonathan, lui, il ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Hein. Il y en a marre de ces Philistins qui nous donnent des impôts, etc. On va pas se laisser faire. Il est jeune, il ne voit pas pourquoi le peuple d'Israël, qui était appelé à être le peuple de Dieu, va rester asservi à des infidèles, à des gens idolâtres, cruels, etc. Non, mais c'est ça. Et Jonathan, il y va. Il bat la garnison des Philistins qui était à Geba, c'est sud-est. Et les Philistins la prirent. Et là, la façon dont c'est écrit, ça met la puce à l'oreille. Ah, ça veut dire qu'il fallait mieux rester tranquille. Oh, les Philistins l'ont appris, vous voyez. Oui, aïe, aïe. C'est l'étincelle qui va mettre le feu, en fait. Depuis environ 200 ans, les Philistins, qui appartiennent, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, au peuple de la mer, viennent du nord, de Chypre, etc., déferlent sur les côtes de la Méditerranée, de l'Égypte jusqu'à la Syrie. Ils créent des cités-États, 5 principautés, qui ont déjà été mentionnées dans le livre de Josué. Des villes, c'est les fameuses villes qui ont reçu l'arche. Vous vous souvenez quand l'arche allait d'une ville dans l'autre, puis tout le monde tombait malade. Voilà, c'était les villes des Philistins. Ils tiraient de grands avantages militaires et commerciaux. et là c'est important, du monopole de la fabrication du fer. Les Israélites étaient encore plus ou moins à l'âge du bronze. Et des armes en bronze, côté affûtage, vous repasserez. Hein. Je crois que je ne me trompe pas. Hein. Ça ne s'affûte pas. Hein. Ça casse très facilement. Donc, ils avaient une infériorité militaire énorme par rapport aux Philistins. Pourquoi ? Parce que les Philistins gardaient le monopole du fer. Tiens, tiens, tiens. Donc, ils ne pouvaient pas se battre. On va en reparler tout à l'heure. Saül, comme David, va être confronté toute sa vie aux Philistins. Plus tard, les Philistins vont s'affaiblir. Ils vont représenter encore des ennemis qu'on ne peut pas ignorer, mais ce ne sera quand même pas la même chose. Dans les histoires de l'Ancien Testament, les Philistins représentent l'ennemi. L'ennemi sous toutes ses formes. Alors que ce soit l'idolâtrie, l'ennemi dans le cœur, ou bien le paganisme extérieur, celui qui veut dérober et détruire. Ou séduire. Et on va voir que dans le texte, ils vont venir à la fin du texte d'aujourd'hui, comme en trois bandes, ils vont se séparer en trois bandes de pillards qui vont infester la région pour décourager la population. Ils arrivaient comme ça, ils faisaient des bandes de guerriers qui rentraient dans un village, saccageaient, brûlaient. Bon, bah, Daesh, on n'en est pas loin. Hein. Voilà. Et bah, c'était la technique des Philistins. Les Philistins contrôlaient Israël dans bien des endroits et ils réussissaient à les tenir en respect parce qu'ils gardaient le monopole du fer. Donc on va sauter au verset 19. On ne trouvait pas de forgerons dans tout Israël. Un pays sans forgerons à l'époque. Car les Philistins avaient dit, écoutez bien ça, que les Hébreux ne fabriquent ni épée ni lance. Chaque homme en Israël descendait donc chez les Philistins pour aiguiser sa pioche, son soc de charrue, sa hache et sa bêche. Non mais quoi alors ? Pour manger, pour cultiver, donc pour manger, ils étaient obligés de descendre chez les Philistins pour tous les instruments en métal, en fer, qu'ils utilisaient pour l'agriculture. C'est un peu fort de café ça quand même. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils pouvaient les condamner à la famine et puis... impossibilité de se battre parce que pas de lance, pas d'épée, juste des flèches. Bon, ou des haches. Alors il dit, le prix était d'un pime, je ne sais pas trop ce que ça représente pour les bêches et pour les socs de charrue, d'un tiers de cycle. En plus, il fallait payer hein, pour affûter les haches, redresser les aiguillons. Et attention à ce verset, au jour du combat, il n'y avait pas d'épée ni de lance pour tous ceux qui étaient avec Saül et Jonathan. Il n'y en avait que pour Saül et Jonathan, son fils. Un poste de Philistin va s'établir au passage de Micmas. Ils vont avoir la guerre. La guerre sans armes. C'est choquant quand même. Hein. Jonathan, lui, il est jeune et vaillant. Lui, il a les armes. Et il n'accepte pas le statu quo. Ça commence à bien faire. On ne va pas se laisser bouffer par ces gens. C'est une attaque vraiment osée. Mais les Philistins ont compris qu'avec ce nouveau roi, et surtout avec son fils Jonathan, il va falloir y mettre le paquet pour écraser la révolte. Donc, ça a été l'étincelle qui a mis le feu. Il y a une phrase qui est intéressante aussi. Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a bâti la garnison des Philistins ». En fait, c'était son fils, mais en général, on attribue ça au père. Et Israël s'est rendu odieux aux Philistins. Oh, les vilains ! Ils se sont rendus odieux aux Philistins. Oh, les pauvres Philistins! La façon dont c'est dit, hein? Il s'est rendu odieux aux Philistins. Non, mais c'est pas des trucs, ça, quand même. Il se rend odieux aux envahisseurs. Allons, et alors le statu quo, la diplomatie. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Jonathan, quand même, tu t'es rendu odieux aux Philistins. Bon. Ça veut dire que la tendance, c'était ne pas provoquer l'ennemi. On va chercher à avoir avec lui une coexistence pacifique. Il nous impose des tas de trucs, mais bon, on se laisse faire. Eh bien, ça c'est embêtant, c'est une mauvaise nouvelle, mais faire des compromis avec l'ennemi, pour pas avoir d'ennui, c'est une pure illusion. Chaque fois qu'on fait des compromis avec l'ennemi en disant « Oh, le Seigneur dira rien », souvent ils auraient pu dire « Bon, c'est pas grave, hein, il nous affûte nos outils, on peut se nourrir, il n'y a pas de souci, bon, d'accord, on n'a pas d'armes, mais bon ». Coexistence pacifique. L'ennemi gagne du terrain et nous contrôle. Chaque fois qu'on va faire des compromis avec l'ennemi, c'est lui qui gagne du terrain et qui nous contrôle. C'est pour ça que, je me souviens, ma mère était toujours en colère quand elle entendait des parents qui disaient, je vous l'ai souvent dit, hein, je me répète, « Bah, mes enfants, ils ne sont pas au Seigneur, mais ce n'est pas grave. Ils sont tellement gentils. » Ça, c'est des compromis avec l'ennemi. Qu'est-ce qui va se passer dans l'éternité si je ne retrouve pas mes enfants au ciel? Passer l'éternité en sachant que mes enfants sont de l'autre côté. Waouh! Pensez aux nuits blanches, à tout ce que vous avez fait pour ces enfants. Tout ça pour pas les avoir avec vous dans l'éternité. Pensez qu'ils sont en face, de l'autre côté. Il n'y a pas de coexistence pacifique avec l'ennemi. Il n'y en a pas. C'est une illusion. Nous, on croit que c'est une coexistence pacifique. Mais l'ennemi gagne du terrain et nous contrôle. Et plus on accepte des compromis, il ne faut pas oublier que lui, c'est un envahisseur. Il est voleur et cruel. Même s'il a l'air tout mignon, tout gentil, même s'il donne l'impression de vouloir faire la paix, l'ennemi est un envahisseur, voleur et cruel. Et on ne gagne rien à faire des compromis avec lui dans notre vie. On lui facilite simplement le travail, chaque fois qu'on fait des compromis. Chaque fois qu'on va transiger avec la vérité, avec l'honnêteté, avec notre foi en Jésus, c'est lui qui gagnera. Saül avait renvoyé les hommes chez eux. Ça veut dire qu'il ne planifiait pas la guerre, mais un bon voisinage. On ne peut pas faire un bon voisinage avec l'ennemi. Jonathan, lui, va se révéler comme un homme de foi et de vision. Il était jeune, mais il avait du tonus. On voit plus tard qu'il est conscient que même avec peu d'armes et de soldats, Dieu peut lui donner la victoire. Ça, Jonathan, bravo. Il est parti avec un serviteur, je crois, ils étaient très peu nombreux, puis il a dit, mais Dieu peut donner la victoire avec peu de gens, comme avec beaucoup. Il avait la juste vision de Dieu, Jonathan. Jonathan va se révéler un homme de foi et de vision. Le peuple, lui, va se mobiliser à l'appel de Saül. Bah maintenant que Jonathan a mis le feu, c'est la guerre. Oh mince alors, on a contrarié les Philistins. Le peuple va se mobiliser quand même. Et en face, vous imaginez l'armée des Philistins, on parle de 30 000 je crois, qui remplit la plaine, c'est comme ça que ça se faisait à cette époque-là, à Michmas, c'est une grande plaine. Au premier coup d'œil, les Israélites peuvent voir leur infériorité militaire. En armes, on l'a déjà dit, ils n'avaient rien. Enfin, des flèches, des armes de bronze. Et puis, en nombre, c'est terrible. Les Israélites avaient peu d'armes, les Philistins avaient veillé à ce qu'ils possèdent pas d'armes, donc pas d'épée. Est-ce que l'ennemi ne cherche pas lui aussi à nous fragiliser? Nous empêcher d'avoir les moyens de nous défendre. Alors qu'est-ce qu'on a comme moyen de se défendre, nous, en tant que chrétiens, hein? On ne va pas utiliser des armes, hein? Pas de kalachnikov, non, non, non. Alors quoi? Éphésiens 6, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Un bouclier de la foi, etc. Toutes les armes. Mais particulièrement l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Rappelez-vous Jésus quand il a été tenté par le diable dans le désert. Il a répondu, il est écrit. Et il a gagné. Le diable est parti jusqu'à, bien sûr, au moment où il est pu revenir, mais il l'a laissé. Le seul moyen d'avoir le dessus dans notre vie chrétienne, c'est d'être attaché à la parole de Dieu, d'avoir cette épée sur nous et de s'en servir. Justement, on faisait une visite cette semaine où on voit l'ennemi, comment il peut attaquer les pensées des gens. Et si je ne lui réponds pas? Si je fais un joyeux compromis avec lui. Alors l'ennemi vient dans mes pensées avec ses armes de fer là. Hein? Tu ne vaux rien, tu ne vas pas y arriver, tu vas être attaqué, tu vis dans les angoisses, bla bla bla. Vous savez bien ce qu'il vous dit. Et puis on est en face et on va essayer de faire un compromis avec nos pensées. Hein? Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas grave. Puis on tombe en dépression. L'ennemi attaque par le découragement, par des problèmes de toutes sortes. Est-ce qu'on a le réflexe de nous fortifier par la parole de Dieu? Attention, ça c'est important. Si on n'a pas notre épée pour dire la parole de Dieu dit, je sais que dans cette visite, justement, j'ai insisté là-dessus, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos, etc., etc. Il faut les avoir présents à l'esprit, ces versets. Parce qu'il vient avec ses armes de fer, là. Et nous, alors, on n'a pas notre épée en face. Donc, on se fait bouffer. L'ennemi fera tout pour qu'on ne lise pas la Bible. Vous avez déjà remarqué ? Au moment où vous dites, tiens, j'ai un moment, je vais lire la Bible. Je ne fais pas de dessin. Hein. Ou bien pire, qu'on ne la comprenne pas. Alors à ce propos, j'ai remarqué que les enfants comprennent beaucoup de choses essentielles dans la Bible. Ça fait 21 ans que je fais la culture biblique à des cinquièmes. J'ai eu des sixièmes l'année dernière aussi. Mais ils comprennent pas mal. Hein. Pourtant, j'ai des enfants de famille athée. Hein. Alors là, j'ai un problème. Si nous, chrétiens, on a des problèmes à lire la Bible et à la comprendre, ça peut arriver, hein. Je ne veux pas mettre les gens au pilori, ça peut arriver. C'est normal ? Moi, je ne crois pas. Ce n'est pas un problème intellectuel, du tout. Parce que ça, je vois bien, hein, sixième, cinquième, ils pigent 80%, hein, au moins. Suffisamment pour vivre, en tout cas. Donc, il y a un souci. Si nous, on ne peut pas lire la Bible, si parmi nous, il y a des gens qui ne peuvent pas lire la Bible, qui n'arrivent pas à bien comprendre, pas à capter aussi, à fixer leur attention, ce n'est pas un problème intellectuel. Priez pour ça et n'hésitez pas à demander la prière. Vous n'êtes pas des sous-hommes, hein, ça arrive à tout le monde. Mais faites attention, parce que j'ai remarqué ces derniers temps, plus que jamais, que le diable ne veut pas qu'on utilise notre épée. Il ne veut pas qu'on affûte notre épée. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va nous empêcher de lire la Bible. Il va nous empêcher de mémoriser les versets qui vont nous faire tenir debout. Il va nous empêcher de comprendre certains textes, parce qu'ils pourraient nous faire du bien. Et il fait exactement comme les Philistins. Touchez pas au fer, c'est nous qui avons le monopole du fer. C'est nous qui aiguiserons vos armes en temps voulu. Vous n'avez pas besoin de lance, vous n'avez pas besoin d'épée. Laissez-vous asservir, devenez les esclaves et vous serez tranquilles. C'est ça que le diable veut. Alors, en tout cas, profitez des transports. Profitez des heures de repas où vous êtes tout seul. Profitez des toilettes. Mais oui, pourquoi pas ? Profitez de tous les petits moments où vous pouvez lire un passage de la Bible. Ça vous fait rire, mais quand j'étais en terminale, je me souviens même avant, j'avais repéré au dernier étage de l'école, c'est un grand lycée, il y avait des toilettes où personne n'allait parce qu'ils étaient au troisième étage. Bon, il fallait monter les trois étages et bon, les demoiselles, c'est un lycée de filles, n'avaient pas envie de se taper les trois étages. C'est des grands étages en plus, c'est vieux bâtiment. Et je me réfugiais là pour lire ma Bible tous les midis. Ils étaient très propres en plus, du coup personne n'y allait, donc c'était impeccable. Et j'ai pu lire des tas de choses dans la Bible qui m'ont fait du bien pendant cette période. Il faut profiter de tous les moments. Le métro, le train, profitez pour lire la Bible. Et si vous avez un problème de compréhension, si vous avez un problème de fixer votre attention, c'est curieux, mais regardez, si vous lisez une pub d'Auchan ou de Carrefour, est-ce que vous êtes distrait ? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous allez... Non, vous fixez votre attention. Faites la même chose avec la Bible, vous allez voir tout de suite, hop, il faut que j'aille voir un tel, puis il faut que je téléphone là, et puis... C'est vrai, hein ? Non, mais c'est pas du hasard. C'est la guerre. Et on fait souvent des compromis, c'est-à-dire qu'on se laisse asservir, on vit en bonne intelligence avec l'ennemi, bon voisinage, et on n'affûte plus nos armes. Bon. Donc, profitons de ça. Prions, prions que Dieu nous parle. Et quand les Philistins arrivent, quand les pensées négatives arrivent, vous n'aurez pas de problème à les chasser avec l'épée de l'esprit. Elle sera bien aiguisée. Les promesses de Dieu et les versets encourageants de la parole. Dans cette visite, je disais, bon, tu vas répéter ces versets. Apparemment, ça a été très efficace. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Hein, on dit, oh l'ennemi, le diable, les démons. En face de l'épée de l'esprit, ils sont mal, hein. Seulement le problème, c'est qu'il y a longtemps qu'on a déposé l'épée chez les Philistins. Donc, ressaisissons-nous et surtout ne culpabilisons pas. Ce n'est pas votre faute. C'est l'ennemi qui fait tout pour vous empêcher de lire la Bible. N'allez pas dire « Oh, je suis le plus mauvais des chrétiens, c'est vrai ce qu'elle a dit, je ne lis pas ma Bible. » Mais non ! C'est le diable qui est responsable là. Allez-y, priez, vous allez y arriver. Mais attention. Donc, quand ils voient le déséquilibre des forces en présence, les hommes d'Israël ont peur. Ils ne font pas le poids. Vous imaginez une armée énorme, bien fournie, puis les pauvres clampins, là, ils étaient quoi, 3000, un peu plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Et la Bible nous dit quelque chose d'horrible, et souvent ça représente un peu notre attitude. là 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 là. Les hommes d'Israël se virent en détresse, car le peuple était serré de près. On a l'impression parfois dans la vie d'être serré de près. Hein. Ils se cachèrent dans les grottes, dans les trous, dans les rochers, dans les caves et dans les citernes. On a l'impression de voir un troupeau de rats qui se planque dans tous les trous. Le peuple de Dieu. Aïe, aïe, ça va pas. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Donc, ils ont passé la frontière du Jourdain de l'autre côté. Et le peuple se dispersait. Qu'est-ce que l'ennemi veut ? La dispersion. Ah, souvent, moi, j'en parle de ça, hein, l'esprit de dispersion. Disperser le peuple de Dieu. À tous azimuts, disperser, disperser. Parce que la victoire sera plus facile pour l'ennemi. Disperser. Donc ils se cachent. Où est leur foi en Dieu ? Il y en avait besoin là. Combien de fois dans nos vies on a tremblé de peur ? Les gens, les circonstances, les examens ? Ça, moi j'ai tremblé hein, pour les examens. Des travaux, c'est trop grand, c'est trop difficile, c'est trop dangereux, c'est trop impossible. Et puis on garde les yeux rivés sur la difficulté. Et vous savez, plus on regarde la difficulté, plus elle grossit. Hein, c'est l'histoire de la pièce de monnaie, c'est Rick Ridings. Hein, il prenait la pièce de 5 francs, là, elles étaient grandes, hein, les pièces de 5 francs. Et puis il disait, oh là là, je ne vois plus la moitié de l'église déjà. Oh là là, je ne vois plus qu'un tiers. Et puis il le mettait devant son œil, il dit, ah, je ne vois même plus le soleil. Ah, bien sûr, plus elle se rapproche de nos yeux, plus ça cache tout le reste. J'y arriverai pas. Je suis trop jeune, je suis trop petit, je suis trop faible, je suis trop émotif, je suis trop heureux, ou je suis pas assez fort, pas assez calé, pas assez préparé. Et on fuit. On fuit. C'est vrai que tout seul, c'est pas gagné. Ça, c'est la vérité, hein. Tout seul, c'est pas gagné. Pourtant, les hommes d'Israël, les plus âgés, savaient que la dernière fois où les Philistins s'étaient assemblés pour attaquer, je vous l'ai raconté l'histoire, ben, il y a eu un énorme orage. Ils se sont repentis, ils ont prié, ils ont fait le sacrifice et l'orage a dispersé tous les Philistins. Dieu avait combattu pour eux. Quand eux, ils étaient dans le jeûne et la prière. Énorme orage, panique généralisée. La peur nous fait oublier les grandes choses que Dieu a faites. Et ça, c'est embêtant. Vous connaissez ce verset, « Mon âme bénit l'Éternel et... » Pourquoi il dit ça ? Pour qu'on ait mécaniquement un truc dans la tête qui tourne ? N'oublie aucun de ses bienfaits, parce que c'est ça qui va te permettre de tenir. N'oublie aucun de ses bienfaits. J'étais ravie d'apprendre que Jean-Baptiste, c'est sa grand-tante, ils lui ont offert, pour je ne sais plus quel anniversaire, un écrivain public, quelqu'un qui va rédiger tous les miracles que Dieu a fait dans la vie de cette famille pastorale, donc qui était mon pasteur quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. Quelle bonne idée! N'oublie aucun de ses bienfaits. On pourrait mettre ça comme titre, n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que c'est ça qui nous fait vivre aussi, de se rappeler tout ce que Dieu a fait. Hein? D'ailleurs, on n'est pas un peu comme ça, nous, en tant que parents aussi, si on a fait des trucs vachement bien pour les enfants, puis ils ne s'en souviennent pas. Tu te rappelles quand on est allé là et qu'on a dépensé plein de sous pour ci, pour ça, et puis c'était génial et tu étais content. Et imaginez que l'enfant dise « Non ». Ça fait pas trop plaisir. Hein. Donc imaginez le cœur de Dieu quand il fait des miracles, quand il fait des choses, il change des vies, il change des circonstances, il nous donne des victoires extraordinaires et qu'il nous regarde en disant « Mais tu te rappelles ce que j'ai fait pour toi la dernière fois ?» Puis qu'on dit « Non. » Vous voyez ce que je veux dire. Donc se rappeler des bénédictions de Dieu. Là encore, l'arme, c'est la parole de Dieu. Proclamer, c'est au fait. Malgré toute logique humaine, en face, ils étaient nombreux, hein, en tout cas numériques. Hein. Saül va attendre Samuel. Je vais terminer avec ça, jusqu'au septième jour, comme il avait demandé. Parce que, apparemment, Saül avait dit, alors malheureusement dans le texte, ça n'apparaît pas clairement, mais il attendit 7 jours, jusqu'au temps fixé par Samuel. Ça veut dire que Samuel était venu le voir en lui disant, t'en fais pas Saül, l'armée est là en bas, dans 7 jours j'arrive. Saül attend. Le peuple tremble et commence à se disperser. Et quelle est la réaction de Saül ? Réaction totalement naturelle, humaine, normale, émotive, je dirais animale même. Je n'attends plus. Je prends les choses en main. Je suis le roi. Je ne veux pas trop le critiquer, hein, parce que quand on voit le peuple qui se disperse, qu'on voit l'ennemi en face qui est énorme, et que Samuel a demandé d'attendre 7 jours, il pense à quoi, là, Samuel ? Il vieillit, hein ? 7 jours. Et il a attendu 7 jours, ça, il a été obéissant, mais il y a un moment où il a craqué. Et pourtant, il y avait une interdiction claire dans la loi. Le roi n'est pas sacrificateur. C'était un problème de crainte de Dieu et d'obéissance à ses commandements. La loi de Moïse était claire. C'est le sacrificateur, le prêtre, qui fera le sacrifice, pas le roi. C'était très codifié. Vous vous rappelez le passage de l'arche ? C'était très codifié. On ne s'improvise pas sacrificateur. Saül le savait. Mais Saül craque. Il va faire le sacrifice. Quand il voit, il attend le 7e jour. 7e jour, Samuel, t'es pas là. Tant pis, j'y vais. Ça, c'est moche. Et vous voyez ce qui va se passer. Alors, Saül dit, apportez-moi l'holocauste et les sacrifices de paix. Le verset est très court. Vous savez, dans la Bible, souvent, ces petits versets, ils disent beaucoup. Il offrit l'holocauste. Alors, nous, ça ne nous dit rien. Mais quand on connaît la loi, je pense que Jean-Marc Taubois le ferait bien mieux que moi. C'était une horreur. C'était la chose à ne pas faire. Et comme il achevait d'offrir l'holocauste, Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le bénir. Il ne manque pas de toc. Et Samuel lui dit, qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ? Aïe. Il y a des moments dans notre vie comme ça, où on a peur, où on se dit c'est foutu, et on prend les choses en main. Il y en a d'autres qui l'ont fait, hein, avant nous. Abraham, ça lui a coûté cher, encore aujourd'hui, hein. Les cousins d'Isaac sont bien un problème pour le peuple d'Israël. Et quand on veut forcer la main de Dieu, on peut en arriver à désobéir pour avoir du succès. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la louange. On voudrait tellement que l'Esprit de Dieu descende sur l'auditoire. On voudrait tellement que les gens vibrent à la puissance de Dieu. On voudrait tellement que les gens puissent sortir de là en disant « Waouh, c'était extraordinaire !» Bah, qu'on va utiliser des trucs humains. On va passer à plus de 100 décibels. On va proclamer des tas de choses. On va aussi parler beaucoup de prospérité. C'est la mode en ce moment aux États-Unis pour prouver la bénédiction de Dieu. On va prendre les choses en main. Sinon, le peuple va se disperser. Il faut qu'il sente des choses extraordinaires. Il faut qu'il voie des choses extraordinaires. Et puis, on attend et Dieu ne le fait pas. Alors pour moi qui ai connu la fin du réveil des assemblées de Dieu, je comprends. J'ai connu les dernières miettes seulement. Mais c'était beau de voir des tas de gens guéris, de voir des tas de gens délivrés. De voir... Et on aimerait tellement retrouver ça. Mais il est hors de question qu'on fasse le sacrifice à la place du prophète. Il est hors de question qu'on force la main de Dieu. Qu'as-tu fait ? Le problème de Saül, c'était qu'il accordait plus d'importance au rite qu'à la faveur de Dieu. Mais la faveur de Dieu, on l'a. C'est pas parce qu'on ne sent pas des choses extraordinaires. Elle est là, elle est assurée par sa parole. Et on verra certainement des choses extraordinaires. Moi j'y crois, j'attends toujours. Hein, et je prie pour ça. Mais on ne les provoquera pas. Il faut que ça vienne vraiment de Dieu. Soit du vrai. Hein, faut que ce soit du vrai. On a la faveur de Dieu. Alors vous voyez, la réponse dans la réponse de Saül, il y a un problème. Il dit, les Philistins vont descendre contre moi au Gilgal. Le peuple se disperse et je n'ai pas apaisé le Seigneur. Apaisé le Seigneur ? Non mais, il révèle à Saül. C'est pas une divinité grecque ou égyptienne, le Seigneur. Il n'a pas besoin d'être apaisé. Je ferai briller sur toi ma face si tu obéis. Et alors il va choisir d'apaiser le Seigneur par un sacrifice plutôt que d'obéir. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur, et je le comprends. Quand on voit le peuple se disperser et qu'on voit l'ennemi en face, il y avait de quoi baliser, hein ? On ne peut pas le juger. Mais attention, faire des rites pour s'attirer la faveur de Dieu, ce n'est pas la solution. Les pharisiens faisaient ça. Aller à l'église pour avoir la faveur de Dieu plutôt que d'obéir pendant la semaine. Quand le rite devient plus important que l'obéissance à Dieu, on n'a plus la relation avec Dieu. Mais on a une religion et une superstition. C'est le rite qui compte. Aller à l'église, prier tant de minutes, lire sa Bible tant de minutes, faire ceci, faire cela, le rite compte pour que Dieu nous soit favorable. En Jésus-Christ, Dieu nous est favorable. On a la faveur de Dieu. Dieu nous aime Même quand on fait des bêtises, son amour ne bouge pas. Il va faire tout pour nous en sortir. Et ça, le diable passe son temps à vous dire le contraire. T'es un gros vilain, t'as fait des bêtises, t'as pas été bien, t'as dit ça, t'as fait ça. Et il est l'accusateur des frères, il y va, hein, c'est son métier. Mais on a un avocat auprès du Père, c'est Jésus. Pour lui répondre, pour lui dire. Avec la repentance, on a accès au pardon et à la faveur de Dieu. Bien sûr, la repentance est indispensable, mais voilà. En se justifiant, Saül va démontrer que certaines circonstances ou certaines urgences nous dispensent d'obéir à Dieu. Et vous allez voir comment il fonctionne, notre brave Saül. Ça fait mal au cœur. Un gars si bien, qui a si bien démarré. Regardez comment il fonctionne. Il dit, lorsque j'ai vu, les yeux, aïe, ça nous coûte des problèmes, ça. J'ai vu que le peuple se dispersait. Alors attention, j'ai vu que le peuple, je parle toujours pas de lui, j'ai vu que tu n'arrivais pas. C'est ta faute, Samuel, t'es en retard. Et j'ai vu que les Philistins étaient massés dans la prairie. Voilà. Donc vous avez vu qui est accusé là ? Le peuple, toi, Samuel, et les Philistins. Autrement dit, la faute, c'est au peuple, à toi et aux Philistins. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, quoi. Enfin, j'avais pas le droit, mais je l'ai fait parce que je pouvais pas faire autrement. Autrement dit, c'est à cause de toi, c'est à cause du peuple, c'est à cause des Philistins. On justifie la désobéissance avec un semblant de sagesse humaine, charnelle. Et on s'appuie sur une action rituelle qui devient plus importante que l'obéissance. Et là, ce verset, « Je n'ai pas adouci le visage de Yahvé ». Donc, je suis obligée de faire le sacrifice. C'était ça en hébreu. Hein. « Je n'ai pas adouci le visage de Yahvé ». Mais quelle image est-ce qu'il avait de Dieu ? À Jabès, il avait été rempli d'une sainte colère. Il avait levé l'armée, il avait eu la victoire. Il était rempli de foi, de dynamisme. Il était petit à ses yeux. Il était souple dans la main de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas adressé à Dieu en attendant Samuel ? Il est roi maintenant. Il est roi. Il va porter plus d'attention aux rites religieux qu'aux promesses de Samuel qui avait dit « Dieu sera avec toi ». Et là, il va finir en disant « Tu sais, Samuel, je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Je me suis forcé à désobéir, autrement dit. » Ça fait un peu difficile. On se fie à ce qu'on voit sans tenir compte de Dieu. On raisonne de façon humaine et on agit en laissant de côté la crainte de Dieu. Je vais m'arrêter là parce que ce serait un peu trop long de continuer. Mais faisons attention de toujours privilégier la relation avec Dieu et pas le rite. Pas le rite. Ça aurait sauvé Saül. Saül avait bien commencé sa vie. Pourquoi ? La réponse, je crois, c'est dans le verset de Samuel quand il dit « Quand tu étais petit à tes yeux ». Et là, il commence à prendre une sale pente, Saül, et on va le voir glisser. Et à mon avis, un des gros problèmes de sa vie, c'est qu'il avait une fausse image de Dieu. Ce verset en hébreu qui dit « Je n'ai pas adouci le visage du Seigneur ». Non, mais le visage du Seigneur était doux envers lui depuis le début. Qu'est-ce qu'il est allé s'imaginer ? Donc attention à notre image de Dieu. On a la faveur de Dieu en Jésus-Christ. On a le pardon. On a la relation. On a l'amour de Dieu au quotidien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, cherchez, je vous donnerai du repos. N'oublions jamais les bienfaits de Dieu. La faveur de Dieu, on l'a. Il est là pour nous réconforter. Il est là pour nous assister dans nos problèmes en ce moment. Je sais que plusieurs traversent des problèmes difficiles. Il est là. Il est là à côté de nous. N'allons pas imaginer qu'il faut adoucir son visage par je ne sais quel sacrifice. Et prendre les choses en main, hein, faisons-lui confiance. Il nous aime. Et il va prendre soin de nous, chacun, toute cette semaine. Jusqu'à ce que je vous raconte la suite.